Bonjour, donc, monsieur et madame Boulanger, on dit bonjour à Alain et bonjour à Adrien, donc ceux qui sont avec nous par Zoom ce matin. Il y a peut-être d'autres aussi, mais je ne les vois pas, donc je ne peux pas vous dire s'il y a des personnes à côté de ces noms-là. Aujourd'hui, on continue dans cette série de versets mal compris. Okay? Ce verset, c'est encore c'est un petit passage, mais on va faire tout le contexte pour bien comprendre Éphésiens chapitre 1, verset, je crois que c'est le verset 3, 4 et 5 ou 2. Alors, on va voir quels sont les versets. 4, 5 et 6 sont souvent mécompris. Donc, je vais, après l'introduction, je vais donner quelques versets, juste pour citer, je ne veux pas que vous les cherchiez. On va être dans Éphésiens chapitre 1, ok? C'est ça qu'il faut trouver, Éphésiens chapitre 1. Donc, la question se pose dans la Bible, c'est le geôlier qui pose la question. Il dit, que faut-il faire pour être sauvé? Et la réponse est, croire au Seigneur Jésus et tout sera sauvé. Alors, c'est tout court, il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, nous allons apprendre que Dieu a tout fait pour nous sauver. Il n'y a rien qui manque. Okay? Vous n'avez rien à faire que embrasser la vérité. Il n'y a aucun mérite de choisir entre la vie et la mort. Cependant, il y a beaucoup de bénéfices en choisissant la vie. La clé du passage qu'on va voir aujourd'hui se résume dans l'expression « par la grâce, par la foi, en Jésus-Christ ». Donc c'est ça, voilà, à la fin, à capter. Par la grâce, par la foi, en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne très clairement que tout être humain descend d'Adam. Par héritage et par acte, nous sommes tous également perdus, condamnés et sans espoir. Il n'y a pas deux races humaines. Il y a une seule race humaine, la race pécheresse. Christ a pris l'humanité à nous tous. Notre humanité, pas l'humanité de quelque autre espèce qui n'existe pas, que la race humaine. Sur la base de l'Évangile, le salut est offert gracieusement, gratuitement, à tous les descendants d'Adam. Donc, l'offre de salut, par cela je veux dire, l'offre de salut n'est pas limitée à certaines personnes bénéficiaires d'une détermination faite en avant, ni une obligation à croire qui était imposée sur un certain nombre de personnes. L'offre de salut est pour toute personne. J'ai utilisé dans le passé, je vais le faire encore aujourd'hui, une illustration, le TGV Bordeaux-Paris. Le TGV Bordeaux-Paris. Donc le train est destiné d'avance d'aboutir à Paris. Tout le monde est bienvenu. Personne n'est exclu du train. Plus du monde qui veut aller, plus on ajoute de wagons au train. Mais seulement ceux qui montent dans le train vont arriver. Chacun qui entre dans le train arrive à la destination, c'est-à-dire à Paris. Okay? Le désir d'aller à Paris ne suffit pas pour arriver à Paris. Si les gens ignorent le sifflet du conducteur et restent indécis sur le quai, au lieu de monter dans le train, eh bien, ils vont rester sur le quai quand les portes se ferment et le train part pour Paris. Bien que l'entrée dans le train soit individuelle, l'arrivée à Paris n'est pas individuelle. C'est le train entier qui arrive à Paris avec le groupe de voyageurs à l'intérieur. Donc je vais lire, donc pas besoin de chercher, 1 Timothée chapitre 4, fin du verset. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc cette phrase, le sauveur de tous les hommes, veut dire que Jésus a fait le nécessaire pour sauver 100% de l'humanité. Et l'autre partie, principalement, le sauveur principalement des croyants, ça veut dire que seulement ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient à l'Évangile, seront sauvés. L'Évangile, le salut est disponible à tous, mais l'Évangile, quelque part, pour dire, n'est efficace que pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Aussi dans 1 Jean, le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 2, nous lisons que Jésus-Christ le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pas besoin de chercher. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quand il dit ceux du monde entier, ça veut dire le monde entier. Hein? Jésus a fait l'expiation pour les péchés du monde entier. C'est écrit sur la page. Jean-Baptiste a dit que Jésus ôte le péché du monde. Il n'a pas dit le péché d'Israël. C'était le péché du monde. En expiant les péchés du monde, Jésus a évidemment expié les nôtres, les péchés des croyants. Okay? Ces versets sous-entendent que tous sont pécheurs. Tous sont perdus, condamnés et sans espoir. On est tous dans la même situation. Puis ces versets disent que seul Jésus-Christ est le sauveur. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de chemin. Il y a un seul sauveur, Jésus-Christ. Ces passages disent aussi, et c'est clair, que Jésus est mort pour toute l'humanité. Nous sommes tous perdus et Jésus est mort pour tous. Mais que seulement ceux qui croient à l'Évangile seront sauvés. Ce n'est pas que voilà, Jésus a payé pour tout le monde, donc tout le monde est sauvé. Ça ne marche pas comme ça. Il est mort pour le monde entier. Il offre le salut à tous et tous qui veulent bien seront sauvés. C'est le groupe de croyants qui seront sauvés. Chacun est responsable de croire à l'Évangile. Chacun. Individuellement. C'est comme monter dans le train. Alors, on va regarder. Là, vous pouvez chercher, comme j'ai dit, Éphésiens chapitre 1. Et on va lire beaucoup de versets. On ne va pas tout expliquer, mais on va voir beaucoup de choses quand même. Éphésiens chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc le « et » dans ce cas représente le mot pour nous, on dit, c'est-à-dire les fidèles, les croyants en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors ça, c'est deux petits mots qui vont être très importants à travers tout ce chapitre. Okay? En Christ. Ce verset se repose sur l'œuvre du Saint-Esprit qui immerge chaque croyant dans le corps céleste de Christ. On ne parle pas de Bethléem dans l'eau, on parle du Saint-Esprit. Okay? Et plus tard dans le chapitre, verset 22-23, on va invoquer le corps de Christ. C'est au moment qu'on croit en Jésus-Christ, donc, comme on a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit entre dans la personne et en même temps, il nous immerse dans le corps de Christ, dans les lieux célestes. Cette action spirituelle, ce n'est pas physique, c'est spirituel, est faite par le Saint-Esprit et ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Cette action spirituelle place le croyant en Christ. En Christ, dans le corps de Christ, dans les lieux célestes. Jacques, chapitre 1, verset 17, il ne faut pas le chercher, dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Christ, pas hors Christ, pas en dehors de Christ, c'est en Christ, seulement en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ces bénédictions sont dans les lieux célestes et descendent d'en haut. Dieu a tout fait et nous, on peut avoir ces bénédictions si on demande. Mais il faut demander et il faut être en Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Donc maintenant, on va aborder ces versets qui sont mal compris. Donc, je vous donne une explication. D'autres personnes vont certainement vous donner d'autres explications. Je ne dis pas que j'ai le monopole sur la compréhension de ces choses, mais je vous présente dans la façon que je comprends ces versets. Et j'admets que ces versets, ces trois versets, sont très complexes. Donc, il faut un peu de patience pour comprendre tout ça. Donc, il commence au verset 4, en lui. En lui, c'est qui? C'est en Christ. Donc, il y a deux, trois façons qu'on dit en Christ dans ce chapitre. En Christ, en lui, dans le bien-aimé, c'est tous la même chose. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant, c'est un participe, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Okay, on a déjà dit en Christ, on a vu en lui, et là, on a en son bien-aimé. À la fin, quand il dit, il nous a accordé en son bien-aimé, ça veut dire, c'est la grâce. La grâce. Il nous a accordé la grâce en Jésus-Christ. Donc, pour donner juste une petite capsule de, de ces trois versets, il dit que en Christ, donc en son bien-aimé, nous, c'est pas Billy tout seul, c'est vous tous, depuis le premier chrétien jusqu'à aujourd'hui. Nous, Dieu nous a élus, ayant prédestiné à deux choses, à l'adoption et à la louange. Donc, je vous fais une capsule. Dieu prend le groupe de croyants, comme ceux qui ont entré dans le train, et il les donne un objectif éternel. Cet objectif éternel, donc c'est ce qui est prédestiné, c'est l'objectif éternel. C'est une adoption, on va revoir ça, et la louange. OK? Donc, on revient pour le début de la phrase, en lui, en Christ. Donc, on a cette expression. Et donc, ça veut dire que quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus comme le pécheur que nous sommes, parce que nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Il nous voit toujours en Christ. Il voit Christ. Et en Christ sont les croyants, ceux qui se sont confiés à lui pour purifier le péché. Dieu ne nous voit plus hors Christ. Depuis le moment qu'on a cru en Jésus-Christ, Dieu nous voit toujours à travers Christ, en Christ. Dieu voit son Fils et ceux qui sont purifiés par son Fils. Globalement, ces trois versets disent que l'objectif ultime de Dieu est d'avoir au paradis des enfants saints et irréprochables qui serviront du fait de leur rédemption à glorifier Ici, c'est la grâce de Dieu, à glorifier la grâce de Dieu. Dieu achève cet objectif en accordant l'adoption en son bien-aimé, en Jésus-Christ. Et il accorde cette grâce seulement par la foi dans l'Évangile. Ce n'est pas un assistant au centre biblique ou allant dans telle et telle église ou faisant des prières dans la forêt. C'est seulement en Jésus-Christ que Dieu nous accepte. Donc les éléments dans ce verset, je vais détailler, donc en Christ, donc dans le Christ, il dit avant la fondation du monde, donc il dit que voilà, Dieu a fait quelque chose avant de faire la création. Dieu a réfléchi avant de créer le monde. Ça vous étonne? Ben non. Évidemment, Dieu a réfléchi bien quand il dit 6 jours et tout était fait. Il a dû beaucoup penser avant de faire l'acte de la création. Alors, donc avant la fondation du monde, après on a Dieu et nous. Dieu nous a élus. Donc, nous, c'est encore c'est le groupe. Ce n'est pas l'individu. Vous n'avez pas ici Dieu a élu Billy pour être à faire ceci ou cela. Okay? C'est le groupe de croyants. Dieu attend quelque chose de tous les fidèles en Jésus-Christ. Nous. Okay? C'est comme le groupe de voyageurs dans le train. Tous les gens qui sont dans le train vont arriver à Paris. Ce n'est pas l'individu. C'est, évidemment, l'individu va sortir à Paris. Mais c'est le groupe qui est transporté. Okay? Il dit, il nous a élus à se tenir devant Dieu dans la sainteté. Donc, je raccourcis le verset, mais c'est ça qu'il dit, on est élus. Donc, quand vous parlez d'une élection, vous ne parlez pas d'élire quelqu'un à être, mais vous allez élire quelqu'un à faire. Est-ce que vous suivez? On ne fait pas une élection, donc les gens élus, qui ne sont pas élus à être et de rien faire. Ils sont élus parce qu'ils existent déjà et ils ont quelque chose à faire. Est-ce que vous suivez? L'élection est ce qu'on fait. Ce n'est pas notre être. Ce n'est pas pour être. C'est pour faire quelque chose. Je sais, ça c'est un peu bizarre. Vous dites, je n'ai jamais entendu ça, mais vous pouvez réfléchir en lisant dans le Nouveau Testament, voir qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Vous allez voir que c'est important de comprendre. Élection, c'est à faire quelque chose, c'est mandat. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ici, Dieu nous a élus à se tenir devant Dieu dans la sainteté. Et il va dire par la suite, pour glorifier sa grâce et pour glorifier d'autres choses. Il dit dans son amour. Donc dans son amour, ça c'est Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ. Dans son amour, il nous, donc le groupe, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il nous a prédestinés à être ses enfants par adoption dans la sainteté. Okay? Donc il nous a élus pour être ses enfants, pour être dans la sainteté, pour être devant Dieu dans l'éternité. C'est tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas des gens qui croient en Jésus-Christ qui seront au ciel pour un autre objectif. Ou lui, il est là pour, je sais pas, pour prendre des vacances. Je sais pas. On est tous là dans cet objectif-là. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Donc, je veux noter que la prédestination dans ce verset, et aussi dans le prochain verset qu'on va voir tout à l'heure, concerne l'état éternel des croyants, et non pas qui sera obligé de devenir croyant. Okay? Donc, il y en a qui enseignent que la prédestination, c'est une déclaration par Dieu que telle personne doit obligatoirement croire en Jésus-Christ. Et ce n'est pas ce que ce verset dit. Il dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ seront obligatoirement au ciel pour glorifier Dieu dans la sainteté en tant que ses enfants. Okay? Donc là, c'est la prochaine chose, c'est adopter des enfants. Adopter des enfants, c'est la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut faire. C'est dit ici, Dieu, avant la création du monde, il a dit, je veux avoir des enfants. Je veux adopter des enfants. Okay? L'adoption est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Okay? Et notre adoption sert à louer et à glorifier la grâce de Dieu. Donc, je vais vous rappeler ce que j'ai dit au début. La clé de ce passage, par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. OK? Donc, notre adoption à Jésus-Christ, par Jésus-Christ, sert à louer et à glorifier la grâce de Dieu. Et Dieu nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ. Il est dit là, c'est en Jésus-Christ, c'est pas par autre méthode que Dieu nous a accordé cette grâce. C'est en Jésus-Christ, c'est à travers Jésus-Christ quand on croit en Jésus-Christ. Donc je essaie de faire un petit résumé encore. Avant la création, par sa grâce et selon sa volonté bienveillante, Dieu a prévu ce que je vais appeler le possible et le nécessaire. Okay? Le possible et le nécessaire. Dieu a créé la possibilité du salut et Dieu a établi le comment faire du salut. Avant la création du monde, Dieu a dit, voilà, je veux sauver les gens et voilà comment je vais le faire. Avant la création du monde, il a dit ça. Donc, la possibilité et le nécessaire sont ensemble, ce qu'on va voir dans le verset 9, le bienveillant dessein que Dieu avait formé en lui-même. Il n'a pas demandé notre avis. Il n'a pas demandé à Moïse ou à Adam, d'autres personnes. Il n'a pas demandé aux anges. Dieu, en lui-même, dans la Trinité, avant la création, a fait cette décision qu'il voulait récupérer, voulait la rédemption d'autant d'êtres humains que possible. OK? Donc, Dieu a prévu le possible et le nécessaire, comme j'ai dit, avant la fondation du monde. Dieu n'a pas été surpris par le péché d'Adam, hein? Car Dieu connaît toutes choses en avant. Le dessein de Dieu est bienveillant. Dieu n'est pas méchant. Ce n'est pas un malheur que Dieu nous souhaite. Dieu a un dessein bienveillant. Dieu n'a pas obligé Adam à pécher. Hein, je répète, Dieu n'a pas obligé Adam à pécher pour que Dieu puisse par la suite venir sauver l'humanité. Il y a des théologiens qui enseignent ça. C'est pervers. Que Dieu soit l'auteur du péché. Non, c'est le diable qui est l'auteur du péché. Si vous avez une croyance que Dieu a obligé Adam à pécher, c'est que vous croyez que Dieu est l'auteur du péché. Et ça, c'est pas vrai. Okay? Dieu a donné un commandement à Adam de ne pas faire quelque chose. Et Adam s'est rebellé contre la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Il y a des théologiens qui disent que c'était une volonté cachée de Dieu. Dieu voulait que Adam pêche pour qu'il puisse le sauver. Mais non! C'est malhonnête. Dieu n'est pas malhonnête. On a déjà lu ça. Il n'y a même pas une ombre de variation en Dieu. Il est vrai. C'est le bienveillant dessein de Dieu. C'est un projet d'amour, pas un projet de malheur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans le but d'adopter dans sa famille tous ceux qui croient dans l'évangile de Jésus-Christ. Les croyants sont, du fait de croire en Jésus, prédestinés à cette adoption et porteront la sainteté du Créateur. Donc, quand on parle de salut, on parle toujours du pardon des péchés et la vie éternelle. Okay? C'est deux côtés du salut. Par l'adoption, les croyants seront pour l'éternité saint et irrépréhensible devant Dieu, servant à la louange de la gloire de sa grâce. Donc, ces versets disent qu'avant de créer le monde, Dieu a préparé le plan du salut. Il n'a pas prévu trois plans différents, un seul, déjà bien fait avant la création du monde. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ces versets disent que le salut est en Christ et en nul autre. Et puis, on va voir dans le verset 13, le verset 13 dit que après avoir entendu l'évangile et cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit place le croyant en Christ. Il ne l'a pas fait avant la création. Okay? C'est bien lointain après la création, c'est après avoir entendu l'évangile et cru dans cet évangile que Dieu place le croyant en Christ. Donc, il faut comprendre que par ces versets, les versets expliquent que Dieu a prédéterminé l'objectif du salut et le moyen de salut. Pourquoi Dieu sauve les gens? Et comment Dieu va sauver les gens? Il les sauve pour qu'ils soient au ciel, pour glorifier, donc, au premier partie du chapitre, sa grâce. Et cette grâce est exprimée à travers Jésus-Christ. Et il faut croire en Jésus-Christ pour bénéficier du salut. C'est la destinée de ceux qui croient et non pas qui doit croire qui est en vous. Alors, on va commencer avec le verset 7. On va aller beaucoup plus vite parce que c'était ça la partie la plus complexe. Donc, en lui, donc dans Jésus-Christ, dans le bien-aimé, nous, c'est tous les croyants, tous les groupes de croyants, nous avons la rédemption par son sang, la rédemption des péchés selon la richesse de sa grâce. OK? Cette grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc le point là, c'est que le bienveillant dessein de Dieu, qu'on n'a pas encore lu le verset là, mais eh bien, ce dessein dans la grâce, par la grâce, n'était pas mince à faire. Ce n'était pas simple. Il fallait que Dieu utilise toute sa sagesse et intelligence pour arriver à créer un moyen pour nous sauver. C'était pas facile. C'était super complexe. Mais Dieu l'a résolu. Il était capable de le faire. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est donc, voilà la phrase, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et donc, il y a trois temps invoqués dans ce passage. Il y a avant les temps, pendant les temps et après les temps. Donc, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, avant le temps, hein, ça c'est avant. Après, on a ce qu'il va appeler en verset 21 le siècle présent et on a aussi le siècle à venir. Le temps présent pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et le troisième temps, c'est après les temps, dans l'éternité, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc on va revenir à, ces trois pensées-là. Donc verset 11, en lui, on le voit encore, en lui, en Christ, ok? Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Okay? Donc, nous qui d'avance avons espéré en Christ fait référence non pas au temps avant la création, mais le temps actuel, donc le siècle présent, avant d'aller dans l'éternité, qui avons cru en Jésus-Christ maintenant pour pouvoir aller dans l'éternité. En Christ. C'est le maintenant. Dans le mot prédestiné est suivi par enfin que. Prédestiné afin que. Donc, prédestiné dans l'objectif que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, en Christ, les héritiers, donc chacun dans le groupe, donc le groupe et donc chacun qui fait ce groupe, vont servir à la louange de la gloire de Dieu. Donc la question se pose encore, qui sont les héritiers? Les héritiers sont ceux qui ont d'avance espéré en Christ. C'est vous. Vous avez cru en Jésus-Christ, donc avant de mourir, vous avez cru en Christ. Les héritiers sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ ici-bas, pendant leur vécu, pendant le temps. Il n'y a pas de seconde chance suite à la mort. Quand on meurt, c'est fini. Okay? Il faut croire avant de mourir. On se prépare pour l'éternité. bien que Dieu connaît depuis toujours chaque personne qui va se convertir à Jésus, cette connaissance n'est pas déterminative. Par exemple, Adam n'a pas obéi à une volonté cachée ou secrète de Dieu en péchant. Okay? Il s'est rebellé. On l'a déjà dit ça. Donc, il a péché. Personne n'est sauvé par la préconnaissance de Dieu. On est sauvé seulement, comme le verset dit, après avoir entendu l'évangile et cru en Jésus-Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc je répète cette phrase après avoir entendu l'évangile et cru en Jésus-Christ. Dieu vous a scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Okay? Le gage de notre héritage est le Saint-Esprit. Okay? La Bible ne dit jamais que le gage de notre héritage soit la prédestination. Okay? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'on est prédestiné que Dieu va nous sauver. C'est parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé, c'est-à-dire il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 2, parce qu'il faut finir toute la pensée. Vous étiez mort. Chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, c'est-à-dire comme les non-croyants. Paul, maintenant étant croyant, ne fait plus partie des non-croyants. Comme les autres, ça fait les non-croyants. Okay? Donc le point ici, c'est que sans croire dans l'Évangile, les gens sont prédestinés à la colère et la condamnation. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ seront condamnés. Il n'y a pas d'option. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, hein, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Dieu nous qui étions, verset 5, nous qui étions mortes par nos offenses, avant de croire en Jésus-Christ, mais en croyant en Jésus-Christ, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà, encore la phrase de base de tout ce passage. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc je relis. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, donc là, il invoque le grand amour dont il nous a aimés, l'amour donc a poussé Dieu à agir par grâce envers nous, les coupables. Nous, pas nous, certaines parties de l'humanité coupables, mais toute l'humanité coupable. C'est par grâce que n'importe qui peut être sauvé, que quelqu'un pourrait être sauvé. C'est seulement par la grâce qu'une personne peut être sauvée. Par la foi dans l'Évangile et par la puissance de l'Esprit, Dieu, dans le verset 6, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et toujours on revient là. Donc cette phrase, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, donc on reprend cette idée-là. Donc, dans cette phrase, nous voyons que le point de référence ici, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui a été manifestée par son Fils, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par un quelconque mérite. Okay? Nous sommes sauvés par la grâce. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, donc, quand il dit cela ici, il ne parle pas de la foi, il parle de le salut, par la grâce, qui vient de parler depuis plein de versets. C'est, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, autrefois, en ce temps-là, vous étiez sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Okay? Donc, il dit bien, autrefois, tous les non-croyants, pas un groupe de non-croyants ou la moitié de non-croyants. Tous les non-croyants, autrefois, étaient païens, étaient sans Christ, étaient privés, étaient étrangers, ils étaient sans espoir et ils étaient sans Dieu. Tous étaient dans cette même contexte. Rien dans ces mots permet de croire, et c'est croire faussement, dans un privilège ou les mérites des gens prétendus prédestiné. Ça n'existe pas. Non, c'est seulement en Christ, par son sang, qu'une personne entre en relation avec Dieu. Donc j'espère que vous tous qui sont là aujourd'hui ou qui sont là par Internet, que vous êtes entrés dans cette relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que vous êtes devenus donc les enfants par adoption, que vous êtes devenus héritiers des promesses de Dieu. Sinon, si vous n'êtes pas encore croyant en Jésus-Christ, vous pouvez bien sûr accepter Jésus aujourd'hui. Même maintenant, vous pouvez accepter Jésus. Il n'y a pas un temps pour le faire, c'est toujours maintenant qu'on peut accepter Jésus-Christ. Donc au commencement du message, j'ai donné l'illustration du TGV Bordeaux-Paris. Dans 1 Pierre chapitre 3, Pierre présente l'arche de Noé, un peu de la même manière, comme illustration du salut. En dépit de la patience de Dieu pendant la construction de l'arche, l'arche était seulement efficace pour les 8 personnes qui sont entrées pour ne pas mourir. Le groupe de 8 personnes est sorti, sauf et sain, à l'autre côté du déluge. Tout tout ce qui prend le refuge en Jésus-Christ sortiront sains et saufs à l'autre côté. Donc je résume le message d'aujourd'hui. Par un seul acte d'expiation pour l'humanité entière, le Fils de Dieu a ôté le péché du monde. Dans sa grâce, Dieu sauve chaque pécheur par la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité sans œuvre, sans mérite. Donc la grande question, êtes-vous monté dans le train? Êtes-vous toujours sur le quai, indécis, ou vous êtes entré dans le train? Êtes-vous entré en Christ? Avez-vous cru dans l'Évangile? J'espère que nous tous présents aujourd'hui font partie de ce groupe-là de voyageurs en Christ. Okay?